Bonjour et de trois. Oui, ça fait donc trois podcasts œnophiles dans le paysage du podcast indépendant français. Vous savez, le fameux PIF dont je vous parle parfois. Par ordre chronologique, il y a nous, la Terre à boire, 29e semaine aujourd'hui. Et vous l'avez compris, nous ne sommes pas peu fiers d'avoir ouvert le bal, en quelque sorte. En janvier, se sont lancés les amis de Tire-Bouchon, qui nous régalent de leur pérégrination dans les terres bénies des Côtes-du-Rhône. On les salue au passage, bien entendu. Et puis, voilà qu'apparaissent les Libres Buveurs de Dominique Hutin, un programme qui est la déclinaison podcast d'une émission filmée et diffusée sur les réseaux numériques, ce qui n'enlève rien à leur qualité, bien sûr. Souhaitons-leur surtout la bienvenue. Et tout de suite vient cette question. Pourquoi diable aucun article qui traite de podcast, nombreux ces derniers mois, ne parle-t-il de cette déferlante d'émissions sur le vin ? Il est pourtant régulièrement question de cuisine, un univers pas si loin de nous. Et encore plus surprenant, pourquoi aucune mention, ou presque, dans la presse spécialisée du vin, la RVF, Terre de Vin et tous les autres. Ce serait bien gentil de parler un peu de nous, qui tentons modestement, petit à petit, de leur faire d'apporter notre modeste contribution à la grande famille du vin, bien entendu. Bon, il nous reste simplement à prier que quelqu'un, quelque part, dans une rédaction, entende ce message et prenne sa plume. En attendant, c'est pas comme si on n'avait rien à faire. Il nous reste des tonnes de vins à découvrir et autant de vigneronnes et de vignerons à vous présenter. Ce 29e épisode s'intitule Riesling ou Riesling ? Bienvenue dans la Terre à boire.
Quatrième et dernière étape sur la route des vins d'Alsace. Après ces belles rencontres, Adrien, le blogueur, Christian Binaire, le vigneron et son pinot noir merveilleux. Et enfin, Vincent Flight, lors du troisième épisode de ce cycle, qui nous a vraiment fait un cycle, un cours complet sur l'approche biodynamique dont il est lui convaincu et par son expérience convaincu. On arrive donc au dernier temps de cette valse à quatre temps, le Riesling, autre cépage parfaitement alsacien, un des marqueurs de cette région. Pour en parler, Hélène, tu es toujours avec nous.
Toujours.
Voilà, un plaisir de t'avoir, d'autant que tu as rapporté un vin pour cette dernière émission, on va y revenir.
Je ne pouvais pas venir les mains vides.
Non, c'est vrai, tu aurais pu venir la main vide, on aurait quand même été ravis de t'accueillir, mais avec un vin c'est encore plus agréable.
Toi qui aimes tant prendre l'apéro.
C'est ça, ça devient un marqueur.
J'ai bien retenu.
Patrice et Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Riesling, ça vous évoque quoi, les amis ?
Vin de garde en Alsace, et vin blanc qui essaye de se mettre au niveau des autres grands vins blancs de France, dans son ambition.
Par rapport à un Chardonnay, par exemple, la Star ?
Oui, c'est le vin d'Alsace qui essaye de s'inscrire sur la durée, la minéralité, ce que ça m'évoque.
Est-ce qu'il en a le coffre, le Riesling, est-ce qu'il en a le potentiel ?
Oui, clairement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acidité, donc c'est vraiment un vin de garde, et donc un vin qui évolue énormément sur plein d'arômes dans le temps, plein d'arômes tertiaires, ça se garde facilement 20-30 ans, donc oui, il a en tout cas le potentiel de garde.
On l'a dit souvent, cette histoire d'acidité, c'est la colonne vertébrale d'un vin blanc, qui va faire que justement, en se dégradant, cette acidité va lui conférer un potentiel de garde. Vincent Flight nous disait justement qu'ils étaient malheureux d'avoir des Gewürztraminer trop peu acides, du coup qui étaient un peu mous, un peu plats. Le Riesling qu'on a dans nos verres, dites-nous un petit peu de quoi il s'agit. Laurent et Hélène, à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu nous as rapporté ?
Je vous ai rapporté les Comtes de Ribeauvillier 2010. C'est un vin qui est fait par une des premières caves coopératives d'Alsace, qui a été créée en 1895 pour aider les viticulteurs à faire face à la crise. Et aujourd'hui, ils sont, je crois, une quarantaine de viticulteurs à faire partie de cette cave coopérative.
Je crois que c'est la première fois depuis qu'on a commencé en octobre qu'on goûte un vin de coopérative.
Parfait, je suis ravie d'initier le mouvement.
Mais ça nous donne l'occasion de dire que... les coopératives font parfois d'excellents vins. Ce n'est pas seulement un débouché plus facile dans un monde de viticulteurs qui ne seraient pas des vignerons. où on apporte sa vendange. Il y a aussi des coopérateurs qui font, des coopératives qui font des choses de très très bonne qualité.
C'est une autre façon de faire connaître son vin et de faire avec ses moyens.
Laurent ?
La coopérative ?
Mmh.
Mes impressions ?
Non, je sais pas, moi je...
Non,
le Big Mang.
Je le disais, on a goûté plus de 30 vins, c'est la première fois qu'on parle d'un vin de coopérative. Moi j'ai grandi dans un coin où il n'y avait que des coopératives et très peu de vignerons indépendants. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, enfin depuis que je m'intéresse au vin, mais quel casse-tête pour un vinificateur dans une coopérative. Il y a des parcelles qui arrivent de partout, tu dois prendre tous les raisins parce que chacun... coopère à cette entreprise, tu peux pas faire 80 cuvées non plus. Donc comment tu t'en sors? Eh ben il y en a qui s'en sortent et qui arrivent à faire plusieurs cuvées et des vins d'extrême qualité.
Oui, je pense que c'est possible. Maintenant, c'est quand même pas le cas de la majorité des coopératives.
Bon, c'est bien de faire cette précision quand même. Oui.
C'est compliqué quand ton viticulteur est payé au kilo de raisin qu'il amène
et au degré
qu'il apporte
et au degré. Le sucre.
De faire en sorte qu'il ait le meilleur raisin possible, tout simplement. Ça, c'est vraiment la base de la difficulté de l'équation.
Vision quantitative versus qualitative, où on a tous les jours des vignerons qui nous expliquent qu'ils essayent de réduire le nombre d'hecto à l'hectare, parce que c'est ce qui donne un jus plus concentré et une meilleure qualité.
Donc, il y a un vrai travail pour les caves coopératives pour revoir peut-être le modèle. Il y en a certaines qui parviennent, certainement, hein, à faire des cuvées parcellaires ou des cuvées par viticulteur aussi, parce que certains vont cultiver en bio, d'autres pas. C'est quand même dommage de mélanger des raisins qui sont cultivés en bio avec ceux qui ne le sont pas. Enfin, il y a vraiment plein de questions à se poser sur la façon dont la cave coopérative travaille.
Bon, alors ça, le comte de Ribeauvillé, c'est le vin qu'a rapporté Hélène. Toi, Laurent, tu nous apportes un autre vin qui est...
Donc, un Riesling du domaine Josmeyer, une cuvée qui s'appelle Côte-à-Bée, je dirais, 2014. Côte-à-Bée, c'est en fait une référence à une tradition grecque, un jeu grec, qui consistait à la fin des banquets à jeter le reste de ta coupe de vin dans un récipient métallique, en citant le nom de ta bien-aimée ou ton bien-aimé. Mmh. Et la façon dont le vin sonnait dans le récipient en question déterminait un peu la sincérité de l'amour que l'un se portait à l'autre.
Et hop, il nous sort des traditions romaines, là, comme ça.
C'est pas moi qui les sors, hein, c'est le domaine Josmeyer qui s'est lancé dans cette image. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt joli.
Mmh.
Donc, c'est une cuvée... c'est un domaine qui travaille en biodynamie. Hein. On est vraiment, là encore, dans les mêmes logiques que ce qu'on a pu évoquer dans les précédents épisodes. Des gens qui travaillent en biodynamie depuis les années 90. Actuellement, c'est les deux sœurs, Isabelle et Céline, qui ont repris le domaine au décès de leur père l'an dernier, en 2016 plutôt. Ils sont dans le Haut-Rhin. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ils ont donc leur Riesling qui est cultivé dans un endroit qui est assez connu, qui s'appelle Ehrenweg de Trukheim. Je suis désolé, j'ai un peu de mal avec les noms alsaciens, comme beaucoup de monde. Il se trouve que Vincent Flight évoquait tout à l'heure, c'est dans la vallée de Münster. Et c'est, alors je ne saurais plus reprendre les termes qu'il a utilisés, mais en tout cas ça donne
des galets roulés, des granites, des sables.
En fait c'est des graves, enfin, c'est très graveleux, très graveleux, donc sol très drainant. Ça donne, c'est donc des coins qui sont assez précoces, qui donnent des maturités assez importantes aux raisins. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, pour la petite anecdote touristique, en fait c'est les parcelles de vignes longent l'ancienne voie romaine qui reliait Colmar au col de la Schlurte.
Le fameux col de la Schlurte.
Le col de la Schlurte étant le col qui permet de passer les Vosges pour rejoindre donc les versants ouest.
Et on passe souvent le col de la Schlourte avec un épais brouillard, surtout en hiver. Et quand on redescend du côté alsacien, ben voilà, le brouillard a disparu. Et le grand ciel bleu et le soleil vous saisit.
Voilà,
c'est très joli le col de la Schlourte.
Que dire de plus la biodynamie, même chose. Hein, évoque l'équilibre entre le ciel, la terre, les hommes et la plante, hein, quand ils parlent de biodynamie. Et ils utilisent énormément de tisanes, comme l'a pu le dire Vincent un peu plus tôt, sur des tisanes d'ortie, de prêle, etc., pour limiter l'utilisation du soufre et du cuivre, qui sont quand même, malgré tout, des substances qui ne sont pas idéales pour la vigne. Enfin, pour la terre en particulier.
Après, pour revenir sur l'Isling, c'est le premier cépage d'Alsace en termes de volume et de quantité. Mm-hmm. C'est un cépage assez vif, assez nerveux, assez pointu hein, par rapport à l'exubérance. Donc c'est beaucoup plus droit, c'est beaucoup plus miral quand on l'a en bouche. Mm. C'est beaucoup moins floral et beaucoup moins exotique, d'où la notion de vin de garde, en dehors bien sûr des Gewürz liquoreux qui ont une garde liée à la sucrosité. Là, on a une garde qui est très très liée à l'acidité du Riesling, son côté très nerveux, très pointu, très tendu. Et en même temps, il y a des notes d'agrumes, des notes minérales.
Les Riesling sont connus pour ça, pour la minéralité.
Exactement. Et donc, du coup, qui sont des vins plutôt de longue garde par rapport à ces caractéristiques-là. Voilà, et donc c'est aussi un cépage de voilà, c'est tendu. Voilà.
C'est très tendu, c'est assez acide comme ça, le petit côté citron, agrume, comme tu dis. On voit ça parfaitement avec des fruits de mer. Enfin, je crois pas que je vais
dire. Là, tu es sur le Schlossmeyer.
Alors, j'allais y venir justement. Comparons-les.
Alors, juste une petite précision quand même, oui. Parce que moi, c'est un des éléments qui m'ont fait craquer sur cette cuvée, c'est que les étiquettes sont très artistiques. Et que notamment les étiquettes là de ces derniers millésimes sont faites par Isabelle
et Schlossmeyer donc pour Schlossmeyer.
Isabelle Meyer, ouais.
Meyer. Et le domaine s'appelle Schlossmeyer, mais le nom de famille de la famille c'est Meyer. Meyer,
voilà. Et donc ouais, c'est des jolies étiquettes, voilà. Et maintenant on peut passer au vin.
Mais non, mais t'as raison, les étiquettes.
Non, raison.
Et puis j'ai parlé.
Mon frère est gendarme, donc.
J'ai parlé à un moment de la flûte d'Alsace, donc l'élégance de cette bouteille qui est tout en hauteur, tout en finesse. On les a toutes alignées là. D'ailleurs, il y en a une qui se démarque un peu. C'est celle de Christian Binaire qui est plus haute que les autres. On a noté aussi d'ailleurs, on a oublié de le dire, que celle de Christian Binaire était bouchée avec un bouchon en verre, ce qu'on ne rencontre quand même pas très souvent. Voilà, qui permet d'éviter le côté bouchonné. Il ne peut pas être bouchonné. Le défaut, ce serait qu'il y a peut-être moins d'échanges avec l'extérieur. Du coup, il n'y a pas d'évaporation, mais bon, voilà. On aurait dû lui poser la question. On essaiera de lui poser la question une autre fois. Mais voilà, cette belle bouteille. Et autant les bouteilles de Vincent Flight sont très jolies également avec ces fleurs dont il nous a expliqué qu'elles représentaient les fleurs de chacune des cuvées. Et c'est vrai que la Meyer, elle a un côté très graphique. Très graphique, dessiné, très artistique.
Tout à fait.
Voilà. Mais c'est important, les étiquettes, moi je suis d'accord. La forme des bouteilles, la couleur des verres, tout a une importance.
Parce qu'en fait, moi je parle toujours de l'admiration que j'ai pour les vignerons qui doivent allier des qualités d'agriculteurs, d'industriels au moment de vinifier et de commerçants au moment de commercialiser leur vin. Là, elle rajoute une compétence supplémentaire qui est le fait de faire elle-même ses étiquettes, ce que généralement on confie plutôt à des agences, etc. Et là, on a une jolie expression de ses talents artistiques sur les étiquettes.
Et dans le verre.
Et je clôt la parenthèse.
Non, mais parlons des vins.
Merci de m'avoir autorisé.
Mais tout est permis, mon cher Laurent. Le micro est ouvert.
Du coup, on commence par lequel ?
Écoute, comme tu sens.
Le plus jeune.
Faites-moi une comparaison.
Le plus jeune. Ils n'ont pas le même âge, les Arénins, qui est de 2010.
Ouais.
Ah. De Horry Bovillé. De
2010.
Ouais. Et le Schlossmeyer est de 2014.
Bon, 2014.
On commence par le plus jeune. Bon, là, la couleur, les deux, ça se ressemble. Hein. C'est un beau jaune doré, très lumineux, qui prend vraiment bien la lumière. transparent, on peut dire, limpide. Alors, on est quatre, mais on n'arrive quand même pas à éviter les silences. On est tous obligés de goûter le vin en même temps.
C'est important des silences, parfois.
Ah, ouais. T'as pas tort. Attention, tu nous prépares ta prochaine chronique, ma terre en pensée. Là. Le silence.
Le silence du vin.
Nous vous proposons une demi-heure de silence.
Ouais. Non.
Alors, ça envoie de l'arôme hein, quand même. Hein.
Ah ouais.
C'est pas la même...
C'est, opulent, hein,
c'est pas la même richesse, enfin la même diversité, la même exubérance, comme on dit, comme disent les cavistes, que le Gewürztraminer, mais il y a quand même de l'arôme au nez et en bouche.
Il est très vif. Il a une belle opulence.
Tout en étant très minéral aussi. Moi, j'aime bien quand je retrouve ces parfums de. Alors, ça choque effectivement certains quand on dit que ça. Ça sent le pétrole,
ah ouais.
mais bon, ça exprime la minéralité et je trouve ça assez magnifique. Ouais, ouais. Certains pensent que sentir le pétrole, c'est pas bien, mais...
C'est vrai que quand tu commences à déguster un vin puis qu'on te dit ça au début, c'est...
Oui,
ah,
ça
ah
peut
bon
un peu repousser, mais en réalité...
Moi, c'est le premier que j'ai sur les Pessac. Un Pessac Léonard blanc, le premier truc qui me pète au nez,
c'est le pétrole.
Ouais,
exactement. Ah oui,
ah ouais.
Je trouve le côté empyromatique, mais bon...
Après, d'accord, c'est vraiment typique... Typique du Riesling, j'aime bien l'identifier. Ça...
Oui, un petit côté pétrole,
ouais,
effectivement.
Je vois ce que tu veux
dire. Les huîtres, les fruits de mer, vous me rejoignez là-dessus
Oui, bah oui, c'est...
Crustacés.
En fait, c'est parce qu'il y a plein d'huîtres dans le sol, quelque part, tout profond. Et donc, on les remarie, le vin avec les huîtres.
Fromage de chèvre aussi, probablement.
Oui, sans doute. Peut-être moins le Münster que le Traminer qui...
C'est l'accord parfait, Münster-Traminer.
Oui, c'est ça.
On aura du mal à faire aussi bien.
Le Riesling, on a des choses plus... peut-être plus sobres en goût.
Mais là, je trouve qu'on a une belle persistance, belle persistance quand même d'agrumes aussi en fin de bouche.
En fin de soirée.
Non, mais ouais, une légère amertume saline aussi.
Oui, c'est aussi la particularité, c'est que c'est effectivement très iodé, donc ça se marie bien avec tout ce qui est produit de la mer.
Ouais.
Une bonne petite choucroute de la mer, justement, ça serait bien ça. Si on aime. Tu n'aimes pas?
Ça m'inspire pas tout de suite. Je suis en train d'imaginer le chou avec des moules.
Non, mais c'est parce que tu vois les algues.
C'est délicieux.
Tu vois les algues à la place du chou, c'est pour ça.
Peut-être.
Moi, je dis qu'une bonne choucroute tout court,
voilà.
C'est déjà merveilleux.
On parle plus aussi.
Bonne saucisse.
C'est bon aussi.
Avec des petits salés, là. Enfin, c'est pas du petit salé, mais cette petite viande de porc, là. Mm. Alors, moi, j'ai triché. Je suis déjà allé... piocher mon nez dans l'autre, hein, le Ribeauvillé qui a 4 ans de plus. Et c'est pas mal, mais c'est très différent. C'est très différent. Hein.
Alors, je ne sais pas si c'est... Parce qu'on est sur
Il est plus rond.
Un contenant qui n'a rien à voir, mais on a l'impression d'une espèce d'opulence, de maturité de fruits.
Une rondeur, un gras en bouche qui est...
On retrouve le pétrole quand même, non? On retrouve le côté pétrole
moins fort pour moi.
Non, mais moins marqué, on le retrouve.
Plus de gras.
Je trouve plus brioché. Moi, il y a une espèce de.
Un peu pain de mie, un peu pain.
Ouais, ouais, tout à fait.
Ouais, il a gagné en rondeur et un peu en gras, qui a adouci un peu tous les arômes.
Par contre, effectivement, en bouche, je vous rejoins, je sens beaucoup plus le côté pétroleux qu'au nez. Au nez, j'étais probablement handicapé par la.
C'est compliqué de sentir.
Par notre contenant qui est une flûte, n'est-ce pas?
On boit dans des petits verres, on n'avait pas le. Voilà, on n'a pas.
C'est le problème quand on n'anticipe pas qu'on va comparer deux vins.
La production n'a pas suivi. Voilà, on avait
mais
pas
effectivement,
deux
en bouche,
beaux verres à vin,
bien,
donc on s'est retrouvé
bien le côté pétroleux.
Avec les petites flûtes, mais ça le fait quand même. Hein, voilà. Puis c'est une bonne surprise d'avoir deux Riesling à goûter plutôt qu'un.
On en a un qui est vraiment probablement plus sur la tension. Et celui-ci qui est plus...
Sur le gras, sur la rondeur.
Ouais, il y a beaucoup plus de volume en bouche.
Tout en restant salin quand même. Hein. Je le trouve quand même très salin.
Oui.
Ouais.
C'est cette sensation qui persiste, c'est le côté salin. Ouais.
Ouais, c'est ça, ce qui reste en longueur là, c'est... ouais. J'ai l'impression de les manger les huîtres en fait. C'est fou. Hein.
C'est ça.
Non mais il y a un côté...
Ah, c'est iodé, ouais. Les deux n'ont rien à voir. Hein. C'est surprenant. Ils ont bien évolué l'un et l'autre.
Il y a d'autres endroits où on fait du wrestling ou c'est vraiment que l'Alsace?
En Allemagne.
En Allemagne, oui.
Évidemment. Mm-hmm. C'est certainement le pays qui exprime. Enfin, je vais me faire lyncher par les Alsaciens, mais les plus beaux wrestling sont réputés
allemand.
Pour être allemands, notamment en Moselle, la Moselle allemande. Qui bénéficient de terrains complètement dingues, de coteaux ultra escarpés sur les bords de la Moselle.
On n'est pas très loin.
Non, on n'est pas très loin. Après, la difficulté en Allemagne, c'est qu'il y a beaucoup de sucre résiduel. Enfin, il y a une tradition vraiment du sucre résiduel. C'est difficile de trouver
des secs.
Des secs. Les trocken.
Trocken, ça veut dire sec, oui.
Oui, tout à fait.
Vous avez fait alsacien seconde langue ou... Voilà, franchement, les noms alsaciens...
Deutsch, j'ai... Deutsch.
Ah, c'est pour ça.
Ouais.
Non, moi espagnol, donc ça marche pas.
Ça marche pas du tout, on t'appellera pour le jour.
Là, franchement, l'allemand, c'est pas trop non plus ma zone de confort.
Avec, donc, on a dit qu'on allait manger ça avec des fruits de mer. Il y a des choses qu'on n'a pas dites probablement sur l'Alsace. Et il y a notamment des cépages dont on n'a pas du tout parlé. Le muscat, par exemple.
Tout à fait. Alors, ce qu'on n'a pas dit sur l'Alsace, c'est que...
La liste de ce qu'on n'a pas dit sur l'Alsace.
Pour être ungefähr et très précis, on n'a pas parlé du sylvaner.
Ungefähr, c'est à peu près. Hein.
Oui, je sais.
Ah oui, pardon.
Non, merci, parce que moi, je...
Pour être très à peu près et très précis, d'accord.
Bon.
Vas-y.
Donc on a parlé des quatre cépages. Effectivement, on a parlé un petit peu du muscat d'Alsace avec un des invités.
Avec Adrien, ouais.
Qui nous disait que c'était quelque chose d'intéressant. Muscat d'Alsace qui travaillait d'ailleurs, qui n'est pas du tout travaillé en liquoreux, qui travaillait en sec en Alsace, c'est pas du tout un liquoreux. Il y a le sylvaner.
Ah oui, évidemment, le sylvaner.
Le plus sec des vins d'Alsace, ouais. Quand on va dans une carte d'une brasserie à la Gare de l'Est, par exemple, hein, la brasserie qui est en face de la Gare de l'Est, c'est le plus sec pour, et le moins cher pour accompagner la choucroute, hein, si vous voulez aller là-bas, elle est très bonne. Il y a le pinot blanc aussi, qu'on retrouve également en Champagne.
Oui. T'en as un, la carte Laurent de pinot blanc, que tu m'as fait goûter. Oui,
du domaine Bœuf également.
Voilà. Superbe.
La cabane.
Sylvaner et pinot blanc étant des expressions un peu les plus immédiates, plus légères, on va dire.
On va dire que c'est plus simple en termes d'arôme, on n'est pas dans une complexité aromatique dingue.
En fait, historiquement, les sylvaneurs étaient surtout...
Des vins de plaine.
Voilà, des cultivés en plaine. Donc, c'est des choses qu'on mettait en bouteille d'un litre.
C'était le fameux litron, le
vin de table. Le vin de table. Il se trouve qu'il y a quand même des expressions du sylvaneur qui peuvent être très, très qualitatives. Il y a notamment un grand cru en sylvaneur. Et évidemment, j'ai besoin de mon aide pour retrouver le nom. Qui
il a pris sa petite.
Il y a 51 grands crus en Alsace, qui sont principalement sur les quatre cépages.
Tu vas tous nous les citer avec l'accent.
Non, là, c'est le Zotzenberg pour le Sylvaner.
Zotzenberg, oui. 99 Stromsballon, mais je ne vais pas les citer. Donc Sylvaner, Pinot, qui sont plutôt des expressions légères, on va dire, du vin blanc plus accessible, plus immédiate, un peu moins entre guillemets complexe, un peu moins des vins de garde, mais bien pour l'apéro, la fraîcheur.
Ouais, tout à fait.
Et chose là. Après, on a aussi le l'Auxerrois, mais on n'en a pas beaucoup parlé, qui ne fait pas partie des sept cépages fondamentaux, mais qu'on retrouve.
Mais qui n'est pas l'Auxerrois,
mais
qui Malbec,
n'a rien à voir avec le Malbec du sud. Non.
Dont on avait dit qu'il s'appelait l'Auxerrois aussi. Voilà, on est en train de perdre
l'Auxerrois, Sylvaner, Pinot d'Alsace ont souvent travaillé plutôt sur le Crémant d'Alsace. Ouais. Il rentre dans la composition du Crémant d'Alsace,
qui est le deuxième, avec le Chardonnay.
Voilà, mais qui est le deuxième grand Crémant en France après le Champagne en termes de volume de consommation.
Donc vin pétillant, méthode champenoise.
Donc on va retrouver ça. Ils sont parfois un peu travaillés, donc soit sur les grands crus Sylvaner évoqués par Laurent, ou alors en vin traditionnel. Mais c'est plutôt des vins de plaine et donc du coup avec un peu moins d'expression de terroir, de minéralité, de durée dans le temps. Donc ils se rapprochent du Rhin. Ils ne sont pas sur les coteaux vosgiens, mais plutôt sur les plaines rhénanes.
Laurent, tu ne m'as pas dit qu'il y avait un vigneron qui s'amusait à mettre du sylvaner sur des coteaux pour essayer de donner l'expression de ce terroir-là.
Il y en a plusieurs qui, effectivement...
Redonner de la noblesse à ce cépage sylvaner qui est un peu...
Chez Josmeyer, ils ont une cuvée qui s'appelle Peau Rouge en sylvaner, qui est tout à fait intéressante, justement.
Ça reste des vins plus immédiats, plus complexes.
Moins de garde.
Il ne fait pas partie des cépages nobles de l'Alsace. Voilà.
On entend souvent parler de l'Edelsviker aussi, qui est plutôt un vin d'assemblage en fait.
En fait, c'est ce que ça veut dire.
Oui.
Edelsviker, si j'ai bien lu, Zwicker, c'est mélangé.
J'ai bien lu Goethe.
Aria, si j'ai bien lu Schiller. non, mais j'ai appris ça. Hein. Edelsviker, moi, bêtement, je pensais que c'était soit un terroir, soit un cépage. Non, pas du tout. En fait, ça veut juste dire assemblage. Mm-hmm. C'est comme si sur l'étiquette, il y avait écrit assemblage. Et le Zwicker, c'est assemblage. Et Edel, ce serait noble. Donc, ce serait assemblage de grains nobles, ou enfin de cépages cépage nobles.
Attention.
Attention, grains nobles. Il a dit grains nobles. Vas-y. Allez-y, les gars. Expliquez. Et les gars, et Hélène, expliquez-nous grains nobles. Pourriture noble.
C'est moi.
Botrytis. Ben,
sélection de grains nobles, c'est effectivement le fait de sélectionner à la main, là, au moment des vendanges.
Grain par grain.
Les grains, justement, qui ont été touchés par le botrytis.
Botrytis.
La pourriture noble.
La pourriture noble.
Qui va permettre de faire d'excellents vins, d'excellents vins liquoreux.
Parce que ça concentre tout le sucre dans le raisin.
Voilà, c'est ça.
Bah, le champignon absorbe l'humidité, entre guillemets, et donc concentre les...
C'est un champignon qui se creuse sur la baie, et dont la particularité est de
comme
pomper
à terme, comme à ce terme.
Voilà, c'est
par contre,
exactement
il faut des sacrées quantités de raisins pour faire une bouteille. C'est tellement concentré qu'il en faut des tonnes et des tonnes pour...
D'où les contenants en général en 50 centilitres et le prix assez élevé de ce type de vin, parce qu'effectivement, ça, il reste très peu de jus dans le raisin après l'intervention de ce champignon.
Ce qu'on fait...
On n'en a pas parlé, mais effectivement, l'Alsace a des grands liquoreux.
Oui, on n'a peut-être pas été très bon là-dessus.
On n'a pas été très... On n'a pas beaucoup développé, mais ils ont plutôt des grands liquoreux.
Bah, c'est
les vendanges tardives ou effectivement les sélections de grains nobles. Donc, c'est des choses hyper aussi intéressantes.
Vendanges tardives, classique, c'est sur le pied qu'on laisse le raisin arriver à surmaturité. Et qu'on récolte à surmaturité. Et alors, moi, il y a un truc que je n'ai pas encore bien saisi. Est-ce que sélection de grains nobles, c'est une variante de la vendange tardive? Parce que le botrytis arrive quand on est déjà à surmaturité. Ou il arrive quand il veut.
En fait, tu peux être en vendange tardive sans avoir d'intervention du botrytis.
Mais l'inverse, une sélection de grains nobles, on est déjà dans une logique de vendange tardive.
On est en vendange tardive, ouais.
C'est ça.
Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est... C'est le dépôt de la brume, enfin de la rosée sur les raisins qui développe le botrytis et la chaleur des après-midi qui permet la combinaison de l'humidité et de la chaleur de l'automne.
Et après, il y a des conditions d'élevage aussi. C'est-à-dire que la sélection d'un noble doit forcément être élevée ensuite 18 mois en cave. Donc au-delà du cahier des charges vigne, on va dire, il y a un cahier des charges après de vinification, comme le champagne, hein, 3 ans pour un brut, etc. Donc ça doit rester 18 mois au moins en cave pour avoir cette appellation, cette dénomination, qui date de 1984, comme l'aspect vendange tardive d'ailleurs.
D'accord, c'est pas si ancien que ça finalement.
Non.
On peut dire aussi quand même que le botrytis, beaucoup de vignerons l'évitent, essayent de l'éviter. Le chasse, enfin sur des vins rouges,
ça perd son intérêt pour les raisins. Ils perdent. Si tu fais pas du sauterne ou des vendanges tardives.
Si l'objectif n'est pas d'arriver à ce résultat-là,
ça reste la
pourriture. Et bon, je rappelle d'avoir échangé avec un vigneron qui, justement, au moment des vendanges, disait être extrêmement attentif à pas avoir de grappes botrytisées parce que ça allait. Perturber sa vinification, quoi. Surtout sur du rouge. Hein. En l'occurrence, l'exemple, c'était un rouge. C'est pas le but, quoi.
Tout à fait.
Vous avez tout dit
Oui, bah, en tout cas, l'Alsace est hyper intéressant par rapport à des gens comme l'exemple ou la voix binaire, flight, etc. Donc, il y a plein de choses à faire en Alsace. Alors, pour moi, ça manque encore un petit peu de rouge. volume.
Oui. Tu devrais être content, il y a du pinot noir.
Ouais, mais tout à fait. Donc, mais bon, les blancs sont super, hein, super beaux, super intéressants. Surtout celui qu'on a dégusté de flight, là, est juste fantastique en termes d'équilibre, d'arôme, etc.
Oh là là. Ouais.
L'exubérance exotique qui ressemble à du jus de fruits disparaît au profit de notes florales et de minéralité. Donc, c'est super. Moi, ça me parle en termes de dégustation, donc oui, je vais ça va encore plus m'inciter à creuser, à investiguer les vins d'Alsace qui sont moins faciles d'accès spontanément par rapport aux appellations, mais qu'il y a plein de choses à découvrir parce que du coup, il y a plein de micros. Donc, c'est une démarche un peu plus qui demande un plus d'efforts pour aller accéder au vin, mais c'est vachement intéressant.
Mais vraiment, il faut aller sur place hein, parce que l'Alsace, c'est une région vraiment superbe. Strasbourg, par exemple, je connais pratiquement pas Mulhouse, mais Strasbourg, pour le coup, c'est vraiment une ville formidable. On se promène.
Mais Mulhouse, non.
Dans Mulhouse, non. Si, il y a un petit centre.
Très beau parc zoologique à Mulhouse.
Ouais. Okay. Puis il y a un petit centre qui est joli quand même.
Mais oui.
En tout cas, Strasbourg, au printemps, c'est une ville fantastique. Quoi. On peut partir pour un week-end quand on est parisien ou quand on est d'ailleurs. Hein, on peut partir pour un week-end. C'est une super ville.
Mais
hyper agréable.
Il faut y aller aussi pendant les vendanges parce qu'il paraît que c'est le seul endroit en France où on parlait de le fait que ce soit une région de coteaux. C'est un des seuls endroits en France où on fait les vendanges en rappel.
Ah oui, carrément.
Les vignerons descendent, ils sont accrochés en rappel pour récolter le raisin. C'est une des seules régions en France où on fait ça.
En baudrier.
Ouais, et voilà. Ouais, ça doit être assez c'est pentu, étrange à voir. C'est pentu. Ouais.
Et on fait aussi de la très bonne bière en Alsace, on peut le dire. Hein. Aubernais, par exemple, Cronenbourg, voilà. Et une gastronomie voilà, il y a les pâtes, les spätzle, il y a le Beckhoff dont on a déjà parlé, il y a toute une variété de charcuterie pour ceux qui aiment la charcuterie.
Et le foie gras.
Et tu as raison, précise-le, le foie gras.
Bien sûr.
À manger avec éventuellement une vendange tardive ou alors contre-accord.
La deuxième région en France pour le foie gras, c'est ça?
Je crois bien, oui. Mais en tout cas, c'est une région qui produit du foie gras.
C'est pas très connu. Voilà. On aime ou on n'aime pas le foie gras. Voilà.
On aime le foie gras. Après, on peut ne pas aimer ce qu'il y a derrière.
La façon de le faire.
Ouais.
Le traitement des animaux, tout ça. Ouais. Ce sera l'objet d'une autre émission. On fera une émission sur les maltraitances animales. Mais c'est vrai qu'il y a du foie gras en Alsace. On peut en parler. Puis voilà, c'est une belle région. C'est une belle région et qui est assez peu connue. J'ai l'impression que d'autres gens viennent la visiter et que les Français, en tout cas les Parisiens, y vont très peu.
Quand on l'a à côté de chez nous, on n'y pense pas.
Alors que ça vaut le coup.
En général.
Ah, c'est pas si à côté que ça quand même. Hein. Mais bon, il y a un TGV maintenant qui vous emmène de Paris à Strasbourg. Assez vite, et puis il n'y a pas que Paris, on peut aller en Alsace d'un petit peu partout. Merci beaucoup, c'était un super voyage. Je ne sais pas si on a oublié encore plein de trucs.
Sûrement.
Sans doute.
Non. Sans doute.
On y reviendra.
C'est une initiation.
On y reviendra peut-être. En tout cas, on a fait un joli petit tour en Alsace. À propos de « on y reviendra », où est-ce qu'on va revenir, cher Patrice, cher Laurent? Qu'est-ce qu'on se programme là pour le mois de mai?
Ouf.
Ok. International ou autre chose?
Yes.
We go wild. Vous êtes chaud, hein,
yes.
Hein, vous
on est parti là.
Quitter les
ouais, écoute, sur 10 cycles, l'année ça va faire 10 cycles, on s'est dit, allez, on sort, on fait péter les frontières quoi.
Vous connaissez mon point de vue là.
Non.
Or la France, point de salut.
Oh.
C'est dur.
Et le mec, il veut finir sur un esprit complètement fermé, là.
Pas du tout, j'adore les vins étrangers.
Pas du tout, mais oui, pas du tout. On va pas faire le monde en 4 émissions, et en même temps, si, on va un peu faire ça.
Voilà, c'est un peu...
En toute humilité.
C'est un peu la japonaise. De l'exercice, non
c'est complètement...
savoir où on commence et où on finit.
Bah justement, on va se dire qu'on commence nulle part et qu'on finit pas.
Moi je vous dis, je vous emmène à Santorin. Voilà. Si vous voulez aller à l'étranger, je vous emmène à Santorin.
Et ben c'est parfait. C'est ça qu'on s'est dit. Justement, c'est de se dire, bah allez, dans les vins étrangers. Alors moi je vous dis tout net, j'y connais rien du tout en vins étrangers. J'ai goûté quelques vins italiens qui m'ont plu et ça s'arrête à peu près là mon expérience des vins étrangers. On en parle beaucoup. On sait qu'il y a des vins partout dans le monde. Eh bien, on va pas raconter l'histoire du vin dans le monde, hein, parce que déjà, le vin en France, en une saison, on n'en aura pas fait le tour, et de loin. On va juste se dire, chacun de nous, est-ce qu'on va apporter un vin qui vient d'ailleurs, qui peut être espagnol, italien, australien,
grec.
Allemand, grec. Et donc, celui de Laurent, ce sera donc un Santorin. On est en train de trouver des invités qui seraient peut-être un peu des spécialistes, des importateurs, des gens qui s'y connaissent un peu en vignerons d'ici et surtout d'ailleurs.
Parce que des vrais étrangers, on n'en connaît pas. Donc.
L'étranger est étrange, sache-le, le français est franc. On va trouver des gens pour nous parler des vins du monde, comme on les appelle, et puis voilà, voyager, c'est ce qu'on fait depuis le début. Ce sera peut-être moins encyclopédique, mais quand on parlera de ton Santorin, Laurent, eh ben, on trouvera des choses à dire sur la Grèce, le vignoble grec. On prendra une demi-heure en tout cas pour en parler et puis pour le goûter. C'est quoi comme cépage ton Santorin ?
La Syrtico.
Assyrtico ?
Assyrtico, oui.
Assyrtico.
Assyrtico de Madrid ? Non.
C'est un blanc ou c'est un rouge ?
Les deux.
Oui, non, le Santorin.
L'Assyrtico de Madrid, c'est blanc et rouge, hein, c'est pour ça.
Oui, c'est ça, tout à fait. Antoine Griezmann, tout ça. C'est un blanc ou c'est un rouge, Laurent,
c'est
ton Assyrtico ?
C'est un blanc, c'est iodé, c'est magnifique.
Et ben voilà. Hélène, il y a un vin étranger comme ça qui te vient à l'esprit, toi ?
Un Argentin qui s'appelle Amalaya.
Ouais.
Je suis une grande consommatrice de Malbec. Avec une bonne viande rouge.
C'est blanc, c'est rouge, donc c'est rouge.
C'est rouge.
C'est un Malbec. C'est rouge. Ouais, Malbec, c'est rouge. Ouais. Pardon. Il est
j'ai
tard.
Jamais vu de blanc, je suis pas sûr que ce blanc n'existe pas.
Non. Patrice, si on dit vin étranger, tu penses quoi, toi? Me dis pas Corse, hein, attention.
Non, Brunello di Montalcino. Enfin, je suis plutôt italien.
Un italien, un toscan?
Non, Brunello. Brunello, pas super toscan.
Brunello.
Oui, c'est toscan.
C'est toscan. Bah, Brunello, alors. Je m'y connais bien, tu vois.
Voilà.
Bah Brunello ou Barolo, donc on sera plutôt Brunello, je pense.
Là, c'est moins toscan.
Barolo, c'est moins toscan, ouais. C'est clair.
Et ben voilà.
C'est Piémont.
Voilà, vous voyez, on en parle deux secondes, on a déjà plein de choses à raconter sur les vins du monde. Ce sera un peu l'objet de notre cycle du mois de mai. Ouvrons les frontières, voilà, sortons un petit peu de notre belle France, allons goûter d'autres types de terroirs. Merci beaucoup les amis pour ce petit tour en Alsace. C'est six beaux vins, merci à nos invités. Suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur Facebook, réagissez, mettez des étoiles, tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un vin d'ailleurs. Voilà, allez, je vous embrasse. Salut.
Bonsoir. Salut.
Bye.